Nous allons commencer, si vous voulez bien, ce soir. Je vais pas suivre exactement l'ordre des feuilles que vous voulez recevoir, mais je traiterai un peu peut-être toute la matière de ce que vous trouvez là-bas, peut-être un peu d'une autre manière, de façon peut-être plus personnelle. Hier d'abord, je la reprends en faisant les pages, la question qui m'avait été posée. À laquelle j'ai commencé à répondre la fois passée et que je reprends maintenant. Mais qu'est-ce que nous avons vu dans l'Apocalypse? Nous avons vu l'impact qu'avait aujourd'hui pour nous la mort et la résurrection de Jésus. Dans notre actualité, dans notre aujourd'hui, ici, maintenant. Alors, la question que vous m'avez posée, alors il ne faut plus penser à un au-delà. Il n'y a plus d'au-delà. Mais s'il faut déjà vivre maintenant une réalité qui va venir, c'est qu'il y a bien un au-delà. Nous vivons maintenant la fin. Mais à la lumière de ce qui va venir, celui qui était, qui est, qui était et qui vient. Donc c'est de cette venue qu'il s'agit. Et cette venue, nous ne la manquerons pas. Aucun d'entre nous. C'est la chose peut-être la plus certaine, c'est que chacun d'entre nous, et le tout est de savoir, qu'est-ce que nous ferons de ce moment qui sera peut-être dans la lucidité, qui sera peut-être dans l'inconscience. Qu'en ferons-nous? Comment pourrons-nous nous situer? Et si nous pouvons nous situer à un certain moment, autant commencer maintenant à vivre la vérité, la réalité de ce que nous avons à vivre jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Vous connaissez la romancière Christiane Sardou qui est décédée il y a peu et qui a écrit justement les derniers fragments de son cheminement, ces 6 derniers mois de vie. Il les a écrits avec sa plume alerte telle qu'elle l'avait. Je connaissais aussi bien l'allemand que le français, mais qui parle en français. Et qui montre comment la mort est une véritable rencontre. Le livre de l'Apocalypse suppose ce moment de la rencontre avec le Christ, mais il ne le décrit pas. L'auteur de l'Apocalypse est incapable d'écrire ce qui va venir. Mais il sait celui qui vient. Il connaît celui qui vient. Et c'est cela qui est important. Dans le passage après la dernière scène, le discours de Jésus après la scène, comme on dit généralement, on demande à Jésus, « Nous savons pas où tu vas. Comment connaissons-nous le chemin ?» Nous voudrions toujours avoir la carte du chemin. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Jésus répond, je suis le chemin. L'important, c'est de suivre quelqu'un. Viens, Seigneur Jésus, disait-on dans l'ancienne liturgie, du temps où Jean a écrit, à la fin du 1er siècle, on parlait araméen, Maran, Ata, on peut le dire comme cela. Maran veut dire notre Seigneur, Mar c'est le Seigneur, Maran notre Seigneur, Ata qui vient. C'est une affirmation, notre Seigneur vient. On peut dire aussi Marana, Ta. Notre Seigneur, oh notre Seigneur, vient. C'est un cri. Et vous avez vu que la finale de l'Apocalypse joue sur ces deux manières de prononcer le Maranatha. Notre Seigneur vient. Ou « Oh, notre Seigneur, viens !» C'est tout l'espace de notre existence. Il vient dans nos vies, il nous appelle, et donc nous pouvons l'appeler, puisqu'il nous appelle. Qu'est-ce que nous avons vu cette année dans les cours que nous avons suivis jusqu'ici? Même le livre de l'Apocalypse. Ça, c'est la matière. qu'il y a une cohérence dans ce livre. Et que ce livre dit vraiment le sens de notre existence, et il le dit de plusieurs façons à travers les cinq septénaires. Il le dit d'abord dans la communauté des premières villes de l'Asie mineure. Il le dit donc dans les lettres, il le dit dans les sceaux, il le dit dans les trompettes, il le dit dans les coupes. La trompette nous réveille, les coupes nous donnent quelque chose à voir et à vivre ensemble, et il nous dit dans des visions. Mais il nous dit quoi? Il nous dit ce que nous vivons, mais à la lumière de celui qui vient. Et donc la question se pose maintenant, mais qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut s'y fier? Est-ce que c'est vrai? Et là, nous avons dès le départ, au premier chapitre, nous avons vu le texte, eh bien, on nous dit déjà dès le début qu'il vient, il est, il était et il vient. C'est le terme qui est utilisé. Et puis, on nous dit au chapitre 19, verset 9, à un moment bien déterminé, au moment du chant du triomphe dans le ciel, on nous dit « Ces paroles de Dieu, ajouta-t-il, sont vraies. » Et un peu plus loin, au chapitre 21, au moment où on parle de la Jérusalem future, au verset 6, nous trouvons écrit « Ces paroles sont certaines et vraies. » Et encore un peu plus loin, vers la fin tout à fait, au chapitre 22e, verset 6, eh bien, on nous le dit encore, ces paroles sont certaines et vraies. Alors nous pouvons nous demander, tiens, est-ce que l'auteur de l'Apocalypse tient son contrat? Est-ce que nous pouvons les vérifier, ces paroles? Est-ce que nous pouvons nous les fier? Quelle est cette crédibilité de celui qui est, qui était et qui vient. Pour cela, il faut que nous en ayons une certaine expérience de sa venue. Et ce livre nous dit l'expérience qu'a eue le prophète. Le prophète, c'est celui qui voit les réalités du monde, mais avec le regard de Dieu. Il ne voit pas précisément l'avenir. Les prophètes de l'Ancien Testament ne disent pas l'avenir. Mais ils disent le réel avec le regard de Dieu. Et comme le regard de Dieu ne change pas tellement, eh bien c'est dans cette lumière-là que vous pouvez vivre votre avenir également. Donc il y a une continuité. Et d'ailleurs, Jean, pour bien dire qu'il se met dans la lignée des prophètes de l'Ancien Testament, il les cite tout le temps. Nous avons vu le nombre de références que j'ai essayé de faire, et encore, je les ai réduits au maximum, parce qu'ils ne sont pas toujours connus, mais les références qu'il faisait aux prophètes, mais surtout les grands prophètes, c'est-à-dire Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, surtout à ceux-là. Mais vous retrouvez les mêmes messages dans les autres prophètes. Donc l'esprit de prophétie, on parle de l'esprit de prophétie, il est extrêmement important. Et l'Esprit Saint est tout le temps présent. Mais l'Esprit Saint, on n'en parle pas comme d'une manière habituelle, en tout cas, comme une personne. On parle des sept esprits, des sept esprits qui sont présents dans la réalité du monde. L'Esprit, c'est la réalité la plus tangible des trois personnes trinitaires. Le Père, on ne l'a jamais vu, on ne peut pas le voir. Le Fils, il est venu parmi nous, mais dans sa forme humaine, il est parti. On l'a mis dehors, il est parti. L'Esprit Saint, il vit en chacun d'entre nous. Il a une tangibilité extraordinaire. C'est lui qu'on peut vraiment toucher. Et c'est ce que symbolisent les sept esprits. Les sept esprits, les sept qui disent le cheminement de l'histoire. Les sept esprits, c'est la présence de l'Esprit dans notre monde. Mais il faut les yeux du prophète. Pour le voir, pour le regarder, pour nous en pénétrer. Donc, nous avons devant nous une prophétie. Nous avons devant nous d'essayer de pénétrer ce regard divin sur notre histoire d'aujourd'hui, ici et maintenant. Il vient en nous. Il est là, je vous l'ai dit au départ. Où est Dieu? Il est là où tu le laisses entrer. Là où nous le laissons entrer, il est présent. Il frappe à la porte. Et je vous ai lu ce beau texte que je vous ai donné également, ce beau texte de Claudel, hein, qui essaie d'approfondir ce que ça signifie. Il frappe à la porte. Il frappe à la porte demandant à entrer, pour habiter en nous, bien entendu. Il vient à la proviste, mais il ne viole jamais notre appartement. Il vient comme un voleur, mais il ne vole rien. Il est présent si nous le laissons entrer. Quand se passe cette nuit, lorsque nous ouvrons la porte, si nous l'ouvrons un peu, il vient un peu. Si nous l'ouvrons toute grande, il vient tout grand et il habite notre demeure. Il vient en nous, il frappe à la porte. À quelle porte? À la porte d'un chacun. Il le dit à la finale, je vous le rappelle. L'homme ne désire qu'il vienne et qu'il boive à la source. Tout homme qui désire est une présence d'Esprit Saint. Il y en a-t-il un qui ne désire pas dans l'histoire du monde? Et il y a un moment où cette venue peut être datée dans le temps, dans l'espace, l'heure, le jour, le mois, l'année. C'est une venue du Seigneur. Et il y a un verset qui est curieux, qui est extraordinaire. Je l'ai passé assez rapidement, mais j'y reviens maintenant. C'est au chapitre 10e. Dans ce chapitre 10e, au verset 7, voilà, lorsqu'on parle du châtiment final pour la première fois, il dit qu'il va avaler. Au jour où l'on entendra le septième ange, c'est le verset 7, donc du chapitre 10, le jour où l'on entendra le septième ange, quand il sonnera de la trompette, alors sera consommé ou accompli le mystère de Dieu, selon la bonne nouvelle qu'il en a donnée à ses serviteurs, les prophètes. La bonne nouvelle donnée aux prophètes, c'est le mystère de Dieu. Et ce mystère de Dieu s'accomplit. Étrange. Nous imaginons toujours un peu Dieu dans sa perfection, comme installé quelque part dans un grand fauteuil, mais nous n'avons pas tellement l'idée d'un Dieu dynamique. Dieu est une présence dynamique, une présence en expansion constante. On ne peut pas en faire le tout. L'Épître aux Romains, dans son dernier chapitre et dans, dans ses derniers versets, nous parle de ce mystère de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le mystère de Dieu? C'est-à-dire ce qu'il y a derrière le visage de Dieu, que nous rencontrons peut-être de temps en temps, mais quand il sait, il est déjà passé devant nous. Je vous lis le dernier verset de l'Épître aux Romains. À celui qui a le pouvoir de vous affermir, conformément à la bonne nouvelle que j'annonce en prêchant Jésus-Christ, révélation d'un mystère. Un mystère? C'est exactement ce qui nous constitue intérieurement. Mais sur quoi nous ne pouvons pas mettre la main, que nous ne possédons pas, que nous ne contrôlons pas. Chacun d'entre nous porte un mystère, une réalité absolument unique. Il n'y en a pas de deuxième comme celui-là. D'où le caractère précieux de chaque personne. Nous portons en nous un mystère. Et ce mystère nous constitue. Mais personne, même pas nous-mêmes, ne pouvons mettre la main sur ce que nous sommes. C'est la preuve. que c'est bien une grâce, que ce n'est pas nous qui l'avons constituée. Révélation de mystère, enveloppée de silence aux siècles éternels, mais aujourd'hui manifestée. Voilà l'accomplissement du mystère. Il est présent aux siècles éternels, il est présent, mais il doit se manifester dans la réalité de nos vies. Il est aujourd'hui manifesté, et par des Écritures qui le prédisent, selon l'ordre du Dieu éternel. Porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à la fois, est une obéissance, une certaine dépendance, une dépendance d'amour, hein, l'obéissance, c'est une réalité amoureuse. Porter à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à Dieu qui est seul sage, par Jésus-Christ, à lui soit la gloire, c'est-à-dire le rayonnement de l'amour, au siècle des siècles. Voilà le mystère de Dieu qui se révèle. Le mystère de Dieu est vraiment un chemin de révélation. Dieu qui vient, il vient sans cesse et toujours de plus en plus. Vous pouvez vous demander comment ça se passe dans l'éternité. Là, nous en parlerons quand nous y serons ensemble, si vous le voulez. Entre-temps, nous lui faisons confiance, puisqu'il est le chemin. Donc, on nous présente le mystère de l'accomplissement de Dieu. Et Dieu s'accomplit en venant vers nous. Il s'accomplit d'abord en créant. Et il s'accomplit en venant vers chacun d'entre nous et en nous donnant notre réalité d'être. Cette profondeur de notre être. Il nous la donne, il nous en fait grâce. Et donc nous pouvons nous demander si c'est crédible cette venue que Saint Jean, comme prophète, nous propose. Est-ce qu'elle est crédible? Il y a plusieurs manières de dire cette crédibilité. Elle est crédible puisque vous êtes là, encore ce soir. Si ça ne vous intéressait pas du tout, s'il n'y avait pas quelque chose qui vous y attire dans ce texte, vous ne seriez pas ici. Vous n'auriez pas fait ce cheminement. Donc, c'est déjà quelque chose. Mais avons-nous perçu, pendant que nous cheminions ensemble, avons-nous perçu qu'il venait? Oui, nous avons besoin aussi de cette masse, peut-être anonyme, de cette innombrable masse de saints qui nous ont précédés, dont on nous parle précisément dans l'Apocalypse. Ils sont des témoins avant nous. Nos parents, nos grands-parents, les saints qui nous ont précédés. Ils nous disent aussi quelque chose de cette crédibilité qui a traversé les siècles. Mais ce Fils d'homme, qui est aussi Fils de Dieu et qui nous dévoile que, à nous qui sommes des enfants d'hommes, des enfants des hommes, qui nous dévoile que nous sommes aussi des enfants de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que ça devient dans notre monde d'aujourd'hui? Face à cette violence qu'on ne cesse jour après jour de nous faire percevoir, cette violence partout, elle existe, nous en avons des images. Que devient le visage du Fils d'homme? Depuis les avortements jusqu'au massacre, que devient cette image? Cette figure, je préfère parler de figure que d'image, l'image dit encore quelque chose d'inexistant dans le réel, mais figure dit une réalité existante, ces visages. Alors que nous vivons l'inqualifiable, le mal inqualifiable. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, cet inqualifiable qui nous est répercuté par le Christ nous dit qu'il est en nous, cet inqualifiable. Le fait que nous voyons des images, un peu comme spectateurs, peut nous faire éprouver une sorte de catharsis, de purification intérieure, psychologique, d'accord. Mais ça nous dit quand même que c'est inqualifiable, que ce mal est en nous, dans nos sociétés. Est-ce que nous laissons vivre les autres? l'Apocalypse. Il y en a sept dans l'Apocalypse. Il y en a sept dans l'Évangile de saint Jean. Il y en a 13 chez saint Matthieu, il y en a 15 chez saint Luc. C'est un genre littéraire qui existe beaucoup, et dans les psaumes, et dans les livres de sagesse. De quoi s'agit-il quand Dieu, dans la communauté, nous dit qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs manières d'être là, et il y a plusieurs mots pour le dire. En grec, il y a le terme qui revient, qui est repris d'ailleurs des livres de sagesse, Makarios. Il nous dit heureux d'un bonheur que nous avons à découvrir, qui nous est révélé, qui nous est donné, qui nous est révélé, et que nous avons à découvrir. Il y a un autre bonheur que l'on. En fait, pour dire cet autre bonheur, on dit Eudaimon, celui qui a un bon démon, qui est en bonne forme, dirions-nous. Il y a aussi ceux qui sont, disons, qui voient ce qu'est faire plaisir à quelqu'un, le temps qui a la bienveillance. C'est encore un mot qui dit quelque chose du bonheur. Mais le bonheur, nous y aspirons tous, d'une manière ou d'une autre. Nous allons d'ailleurs voir bientôt, hein, nous le mettons en voyant justement ces œuvres. Il y a aussi une autre manière de nous poser la question, et qui a été souvent utilisée par les commentateurs de l'Apocalypse. Est-ce que nous pouvons découvrir dans notre histoire, comme dans l'histoire de l'Église, mais dans notre histoire, des moments où l'histoire, en quelque sorte, prend fin, où elle dit sa finalité, disons plutôt comme ça. Donc je vous ai repris, à ce sujet, donc c'est à la page 40, ce que Christophe Théobald, qui est un jésuite qui enseigne au Centre Sèvres à Paris, la théologie, et qui essaie justement de réfléchir dans un livre où il parle de l'Apocalypse en gros, il parle des évangiles de l'Apocalypse, lui aujourd'hui. Et il se dit, mais oui, il faudrait voir quelles sont les choses qui prennent fin en ce siècle. Hein, pour voir simplement, il y a des fins qui nous annoncent la fin finale, si vous voulez. Mais il dit, mais oui, nous sommes en train de vivre ce qu'on peut appeler la fin de la religion. Jusqu'ici, hein, c'est vrai qu'on appartenait à une religion. Et c'est encore le cas aujourd'hui, nous réclamons d'une religion. Mais on voit qu'aujourd'hui, surtout dans le discours interreligieux, par exemple, que les religions, c'est-à-dire les formes que prennent notre relation à Dieu, les formes qu'elles prennent dans l'histoire, sont variées, sont différentes. Elles ont des liens entre elles, bien entendu. Mais maintenant, on peut avoir un discours interreligieux. On peut parler à des personnes qui ne sont pas cloisonnées dans leur religion. Donc la fin de ces religions, c'est-à-dire la fin de ce cloisonnement, arrive aujourd'hui. Et c'est en quelque sorte déjà un accomplissement du mystère de Dieu. Voyez, quand il n'y a plus d'appartenance à un groupe social, fût-il religieux, nous sommes davantage remis à notre conscience personnelle. Et nous avons à vivre de cette conscience personnelle. Ce « je » qui peut se situer devant Dieu. Ce « je », avec tous les « je » de mes frères et de mes sœurs. Mais voyez, jusqu'ici, nous vivions, au fond, dans une tradition. Et cette tradition exprimait ce qui était la religion. Maintenant, nous avons à nous faire une idée personnelle de cette présence de Dieu. Sans disparaître, comme le dit Christophe Théobald dans le texte que vous donne là, la religion se découvre comme provisoire et la conscience humaine commence à parler. Mais c'est un progrès. C'est une fin, donc un progrès. La deuxième fin que nous avons, d'une manière ou d'une autre, à laquelle nous avons assisté, c'est la chute de deux grands totalitarismes que Dieu s'est réellement tu, l'homme occidental a eu du mal à supporter le vide. C'est encore ce que nous pouvons lire dans l'Apocalypse, l'incapacité à supporter le silence. Pour tenir devant Dieu, il faut des spirituels. Il faut des gens qui font silence pour écouter l'esprit en silence. Dès lors, à la place vide, laissée vide par Dieu, l'économique et le politique se sont déployés et ont été divinisés dans les totalitarismes terrifiants que l'Occident a connus au XXe siècle. Le léninisme stalinisme, qui est décédé en 1989, et le nazisme en 1945. Le pouvoir et l'économique. Il fallait la force pour les faire tomber. Une force morale sans pareil, un sentiment de vérité face à l'inqualifiable. Il fallait un sursaut dans l'homme pour découvrir, même dans les camps d'extermination, la présence de l'homme et son caractère absolument unique de chacun. Mais ça s'estompe encore. Ça s'estompe encore aujourd'hui. Il y a encore des génocides, il y a encore du terrorisme. Ça n'est pas encore advenu, il vient. Troisième phase, la mondialisation. À juste titre, elle peut nous inquiéter. Je vous en parlais la fois passée. Le tout économique qu'elle génère, les tentatives des plus puissants pour créer une société mondiale, la distribution d'une culture Coca-Cola, je lui donne tous les noms, une conscience commune est déjà en train de naître. Et regardez, face aux huîtres rassemblées en Allemagne, il y a une résistance. Cette résistance est significative. Elle est la conscience de la dignité de l'homme. C'est une présence de l'esprit. Elle est présente dans notre monde. Ces trois fins change notre image de Dieu. Dieu nous a tout confié, y compris la capacité de traverser le mal radical. La source de la vie et de l'avenir est au cœur du globe, dans l'humanité. C'est que Dieu vient, non pas seulement comme un donné, ce que nous pouvons bien approcher par la science, la science, le travail sur des données. Mais il y a le donateur qui est caché derrière ça. On ne peut rien dire de plus grand de Dieu que son silence. C'est là le lieu où nous le rencontrons. Quand nous avons fait taire tout ce qui n'est pas sa présence en nous, quand nous avons fait taire tout, sauf notre mystère. Et passons à l'Église, l'auteur fait en même temps. Une application à l'Église, l'auteur y voit une crise sans précédent. Elle s'est comprise comme religion de l'Église et montre maintenant son caractère provisoire. Elle s'est comprise comme un corps politique et il est en train de disparaître. Comment va-t-elle vivre sa propre mondialisation, son universalité, son caractère catholique? En engendrant des consciences responsables situées culturellement. Le combat spirituel se joue aussi dans l'Église. Avoir la force de crier, comme l'auteur de l'Apocalypse, de vivre ce qu'il dévoile, devenir quelque chose comme une conscience prophétique du monde. C'est ce à quoi nous engage la lecture du dernier livre de la Bible. Engagement dans le monde de ce temps, par une liturgie qui prend toute notre existence, et dans laquelle la liturgie prophétique que nous vivons à l'Église est significative. La question se pose. Le mal existe et continue d'exister. Est-ce qu'il va triompher? Les grandes questions se pose toujours à nous et nous y revenons.
qui se propage.
C'est ce que nous raconte le livre de la Genèse. Il commence par là. Il commence par nous dire le mal n'est pas voulu par Dieu, il vient de l'homme, mais il se propage.
D'où vient-il?
D'où vient-il? Il ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Dans la Bible, on n'est jamais manichéen. Il n'y a pas de Dieu qui se dispute le champ d'action qui serait l'humanité. Non. Et saint Augustin a lutté contre ce manichéisme pendant très longtemps, avant de découvrir la véritable liberté. D'où vient-il? Et quand nous sommes dedans, quand nous sommes dans la persécution, dans le mal, qui nous vient de quelconque façon, nous demandons jusqu'à quand? Ça va durer combien de temps? Et alors, toujours cette question lancinante, pourquoi? Pourquoi? Nous cherchons la cause. Dans l'Apocalypse, on dit pourquoi, en deux mots? Quelle est la traversée, la finalité, la traversée de notre existence malheureuse? Il y a un combat. Ce combat n'est pas une fatalité. Il n'y a rien d'écrit. Il y a un combat. Quel est ce combat? Quel est le mal? Quelle est la véritable source de ce mal? On peut l'appeler de différents noms. La Bible l'appelle souvent l'orgueil, le profit, la liberté. La liberté, c'est un peu qui met le moi en avant. La liberté, tout en un. Tout d'abord, ma liberté. Dieu parie sur son premier mot, qui est aussi son dernier. Il vit que tout était bien. Et quand il crée l'homme, il vit que c'était très bon. Dieu met toute sa confiance dans l'homme. Il vit que c'est Dieu. Et le premier mot de Dieu, c'est aussi son dernier. Mais voyez à quoi il s'engage. Il s'engage à vivre jusqu'au bout, c'est là son mystère, le mystère dévoilé. Il a vivre jusqu'au bout. L'amour. L'amour aura le dernier mot. C'est ce qu'il dit. La mort n'est pas un mal. La mort est une fin, donc un commencement, c'est une rencontre. Mais la violence est un mal. Tuer est un mal. Humilier est un mal. Si nous voulons prendre maintenant le vocabulaire de l'Apocalypse, être animal, c'est un mal. Et faire que l'autre soit un animal, c'est aussi l'humilier, lui enlever sa dignité. Ça, c'est le vrai mal. Mais la mort, c'est une rencontre. Je vous rappelle le dernier chapitre du livre du Deutéronome, la mort de Moïse. Moïse qui voulait passer de l'autre côté du Jourdain, il a amené le peuple des Israélites jusqu'à la frontière, jusqu'au Jourdain, il voudrait passer de l'autre côté et les entraîner en Terre Sainte. La terre promise. Et Dieu lui dit non. Tu n'y passeras pas. C'est une manière de dire la mort, nous ne pouvons pas la vivre telle que nous voudrions. La mort est un mystère qui nous dépasse. Et c'est là qu'il est mouru, sur l'ordre de Dieu, comme on traduit généralement dans nos Bibles, mais le terme hébreu est c'est là qu'il mourut, sur le sommet du Pisga, dans les monts de Moab, c'est là qu'il mourut, sur la bouche de Dieu, dans un baiser divin. La mort, c'est ça. C'est rencontrer celui qui nous a fait vivre jusqu'à. Pourquoi le mal? Parce que l'homme prend mal la mort. Il arrive très difficilement à l'accueillir comme l'accomplissement de son être. L'homme accuse difficilement le choc d'être limité dans son existence. Et pourtant, c'est précisément ce qui fait sa grandeur. C'est son unicité. Il apparaît à un moment, il disparaît à un autre. Entre les deux, il a été unique. Unique. Et vous voyez que la Bible est tout à fait contre la métempsychose. Ou les successions de vie. C'est pas pour ça. À cause de la dignité de l'homme. L'homme est une volonté capable d'amour. Alors, toute notre existence, c'est d'inscrire un sens dans notre corps et dans nos relations. Dieu prend un corps pour nous montrer qu'il est communion de relations. Et la Bible nous présente Dieu comme en quelque sorte surpris devant le mal. Il a fait tout bien. Et puis tout d'un coup, c'est la pure de banane. C'est le mal. Et Dieu paraît surpris. Mais non, il n'a pas surpris. Il fait confiance. Il fait confiance à l'homme et en créant et en lui donnant la possibilité de procréer. C'est un peu de périr. Et il donne tout d'un coup. Y compris sa capacité de vaincre la mort. Inaccomplissement du mystère de Dieu. Alors, quand est-ce que tout ça finira? Quand est-ce que nous obtiendrons le bonheur? Quand est-ce que nous pourrons répondre au désir de Dieu qui vit que tout était bon? Quand s'accomplira le mystère de Dieu? Eh bien, je prends les sept béatitudes. C'est ici qu'elles doivent venir. Les sept béatitudes que vous trouvez dans l'Apocalypse, à la page 39 des feuilles que vous avez distribuées, révélé concrètement par Jésus lui-même. Cette révélation nous vient par des témoignages qui en sont donnés dans l'histoire, mais ce bonheur, c'est la présence de Jésus. Et cette présence de Jésus que le Père reconnaîtra un jour, qu'il est déjà en train de faire, ce qu'il est déjà en train de faire, en chacun de ses enfants, de nous, en toute vérité. Mais il faut que cette image du Christ affleure en nous. Si nous commencions déjà, c'est ce que nous dit l'Apocalypse. Il nous demande de résister au mal, en reconnaissant au mal, en reconnaissant en chaque être humain un être unique, en nous donnant la force et la responsabilité pour le vivre. Les sept heureux de l'Apocalypse nous interpellent. Je vous les nomme brièvement, je vous les ai repris à la fin de la page 39 et début de la page 40. Le premier, c'est tout au début. Heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Le temps est proche. La proximité du Seigneur. Heureux si nous en retenons le contenu. Le contenu, ce ne sont pas les versets à apprendre par cœur, vous pouvez si vous voulez. Mais le contenu, c'est cette présence de Dieu qui vient en Jésus et qui s'approche de nous, qui frappe à la porte, qui nous invite à s'élancer. Et puis, il faut arriver déjà passer le milieu de l'Apocalypse. pour découvrir au chapitre 14, verset 13, le deuxième. Puis j'entendis une voix me dire, du ciel, écrit heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux celui qui découvre que sa mort est une rencontre du Père. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Dès maintenant, lui dit l'Esprit, dès maintenant, ils parlent, qu'ils se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. Non pas qu'ils prennent quelques jours de congé, mais qu'ils soient apaisés dans leur fatigue. Qu'ils sachent que leur fatigue est déjà un cheminement de Dieu en eux, dans leur vie, dans leur existence. Quelles que soient les fatigues que nous avons à porter, qu'elles soient d'ordre familial, social, physique ou autre. Écrit un peu plus loin, au chapitre 16, verset 15, « Voici que je viens. » Ah, c'est Dieu lui-même qui parle à travers la parole du prophète. « Voici que je viens comme un voleur. » À un moment que vous n'y pensez pas, comme dit l'Évangile. « Heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. » Ne prenons pas ça au sens de vie, au premier sens. Qu'est-ce que c'est que la nudité dans la vie? La nudité symbolise toujours la vulnérabilité et la plupart du temps le péché. C'est ma faiblesse mise à nu, comme nous disons. Faiblesse exposée au regard de tous. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. On peut être nu pour la nuit, mais quand on veille, on est là, prêt à sauter sur l'événement qui va nous solliciter. Et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir ça. La honte, ce serait d'être surpris. D'être surpris par celui qui frappe à la porte. Alors que c'est cela qu'il désire lui. Habiter dans notre demeure. Et puis, au fur et à mesure que l'on approche de la fin, voilà que les heureux se multiplient. Il y en a quatre. Le chapitre 19, de nouveau, écrit pour qu'on se souvienne. C'est pour ça que lui a écrit son livre. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Ces paroles sont vraies, ajouta-t-il. Heureux les invités au festin des noces de l'âme. Voilà, l'invitation est faite. Nous sommes invités aux noces de l'âme. Ces noces de l'agneau, c'est Dieu qui épouse notre humanité et qui épouse chacune et chacun d'entre nous. C'est cette présence de l'un à l'autre dans un face-à-face, dans un baiser divin. Et ce moment de la mort est le moment nous totalisons tout et nous lâchons tout. C'est ça qui fait dire au Talmud, dans la tradition juive, c'est ça qui fait dire que tout homme, puisqu'il meurt vraiment, arrive à un moment où il lâche tout, où il donne tout. Et donc, il est sauvé. Heureux et saint. Celui qui participe à la première résurrection, c'est-à-dire qui passe à travers la mort, qui passe à travers ce mal qui existe dans le monde, et qui passe à travers dans la paix. La seconde mort n'a pas pouvoir sur eux. Il est déjà en quelque sorte passé dans la résurrection. C'est l'image du baptême, bien entendu, mais c'est l'image de la réalité spirituelle que nous vivons. Mais ils seront traîtres de Dieu et du Christ, avec qui ils régneront toute l'année. Ils seront les intercesseurs entre Dieu et les hommes et leurs frères. C'est notre tâche, dans la mesure où nous croyons, celui qui participe à la première résurrection. Et voici que mon retour, c'est de nouveau lui qui parle,
voici que mon retour est proche. Heureux qui garde les paroles prophétiques de ce livre, nous revenons au début. Mais maintenant, nous connaissons davantage le poids de ces paroles prophétiques. Nous savons que c'est le poids de Dieu qui s'engage dans notre humanité. L'urgence de la venue du Seigneur procure un approfondissement des invitations divines par la méditation, par la prière. Et puis nous retrouvons encore un passage qui venait déjà au chapitre 7e. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils pourront disposer de l'arbre de vie. Le vêtement, c'est ce qui nous protège, bien sûr, de la chaleur ou du froid, des intempéries. Le vêtement, c'est aussi ce qui nous donne notre dignité, ce que nous sommes. Nous pouvons être identifiés par notre vêtement. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils pourront disposer de l'arbre de vie. Nous pourrons entrer dans cette vie qui est celle-même de Dieu. L'arbre de vie, tout simplement, c'est la croix. Alors, il vient, il vient pas, il est venu. Il est venu. Il vient. Et puis à un certain moment, on dit oui, il vient. Il est, il était. Et il est vrai, il vient par le chrétien. Quand Jésus, pardon, quand Dieu voulait dire à Jésus qui il était, il dit je suis. Celui qui suit, traduisons-nous. Traduire, je suis en train de devenir celui qui suit. Parce que c'est un mouvement, c'est un chemin, c'est un inaccompli en hébreu. On pouvait dire aussi, je suis qui suis, tu ne peux pas me découvrir. Ça peut vouloir dire aussi, et ça a été traduit comme ça en grec, je suis celui qui est, opon, l'étang. L'Apocalypse dit, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. C'est celui qui dit mon nom. Celui qui dit mon nom. Ce nom sur le caillou blanc que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. C'est-à-dire celui qui me donne ma personne. Voyez, si Dieu est seulement à distance de nous, s'il est seulement le transcendant, alors l'histoire ne l'intéresse pas. Et nous n'avons qu'une chose à faire, dire il existe, il est plus grand que nous, et à nous soumettre. Islam. Si Dieu est proche, ça veut dire qu'il a pris chair, il a fait sa demeure dans son peuple, dans la collectivité, dans l'humanité. S'il est lointain, proche et lié à notre histoire, il atteint le plus petit d'entre nous. Lorsque le plus petit des hommes, le plus petit, le dernier, mais le dernier au sens de chronologique du terme, mais aussi le dernier, le plus petit, le plus humble, aura entendu, on lui dira heureux, le mystère de Dieu sera accompli. Lorsque nous pourrons découvrir dans le plus petit des hommes, le plus petit bébé, comme le plus pauvre des hommes, la présence de Dieu, quand nous pourrons dire que tout le monde, nous pouvons le faire, alors le mystère de Dieu sera accompli. Et pour ça, il faut entendre cette pour que nos frères et nos sœurs puissent entendre cet heureux, il faut que nous puissions l'aider. Alors ça nous demande quelque chose d'important, un chemin très difficile à faire, pour que tout le monde puisse entendre cet heureux. Prendre conscience de l'unité, de l'unicité de chacun. Rendre conscience que tout homme, toute femme, tout enfant, tout être humain est un homme à part entière, est un Jésus à part entière, un véritable fils d'homme. Rendre conscience de cette réalité. Ça demande un chemin extraordinaire. Prendre conscience de l'unicité de chacun. Nous y allons. Nous disons aujourd'hui, nous appelons ça la dignité de l'homme. Cette dignité à rendre à chacun. Mais chaque un, chaque unique. Et ce qu'il faut pouvoir dire, lorsque nous disons heureux à quelqu'un, et donc que nous faisons son bonheur, non pas le bonheur que nous voulons bien causer, ça c'est pas le sien, c'est le nôtre, mais le sien. Découvrir cette présence de Dieu en lui, nous le faisons grandir. Dire heureux à la manière de Dieu. Lui, il réalise ce qu'il dit. Le mystère de Dieu, c'est la foule anonyme des uniques que Dieu met en relation les uns avec les autres. Il y a le mystère de leur bonheur singulier qui est désir de communion. Voilà à quoi nous engage l'Apocalypse. C'est la liturgie du ciel. C'est aussi l'Eucharistie de la terre. Et je terminerai par l'hymne que je vous ai cité, en dessous de la page 37, qui est un hymne de Didier Rimaud, qui est un père jésuite qui est décédé maintenant, qui a constitué la prière du temps présent, le livre des heures, et qui a créé ces chants admirables que d'autres ont mis en musique. Et nous pouvons, pendant quelques instants, méditer ce texte extraordinaire. Il résume bien la lecture de l'Apocalypse. Dieu, au-delà de tout créé, nous ne pouvions que t'appeler l'inconnaissable. Béni sois-tu pour l'autre voix qui sait ton nom, qui vient de toi. Et donne à notre humanité de rendre grâce. Celui qui est, qui était et qui vit. Dieu, nous dit Saint Jean dans son prologue, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, celui qui est tourné vers le Saint-Père, lui nous l'a raconté. Toi, que nul homme n'a pu voir. Nous te voyons rendre ta part de nos souffrances. Béni sois-tu d'avoir montré sur le visage bien-aimé du Christ offert à nos regards ta gloire immense. Le visage du Christ reconnu en chacun de nous. Toi que nul homme n'a pu voir, Dieu personne n'a jamais vu. Nous te voyons prendre ta part de nos souffrances, vivre notre histoire avec nous. Béni sois-tu d'avoir montré sur le visage bien-aimé du Christ, offert à nos regards, ta gloire immense. Ça se trouvait dès le début de l'Apocalypse. Tout au début, nous trouvions ceci. Chapitre 1er. Le voici qui vient et escorté des nuées. Chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui, amen. Toi, que nul homme n'entendit, nous t'écoutons. Parole enfouie là où nous sommes. Béni sois-tu d'avoir semé dans l'univers à consacrer des mots qui parlent d'aujourd'hui et nous façonnent. Cette parole du Seigneur, bonne nouvelle, nous l'avons entendu Dieu. Jésus nous a apporté ces mots. Ils sont là, dans cette Bible. Toi, que nul homme n'a touché, nous t'avons pris. L'arbre est dressé en pleine terre. Béni sois-tu d'avoir remis entre les mains des plus petits ce corps où rien ne peut cacher ton cœur de père. L'arbre est dressé, vous l'avez bien découvert que c'est l'arbre de vie, c'est l'arbre de la croix. Nous l'avons pris, nous l'avons mis dehors, en pleine terre. Et il ne soit plus d'avoir remis entre les mains des plus petits, le dernier homme qui peut se découvrir heureux grâce à ses frères, ce corps où rien ne peut cacher ton cœur de père. Béni sois-tu Dieu qui est venu nous rencontrer en Jésus. Car en lui nous voyons, entendons, touchons ce qui est invisible, inaudible, intouchable, ta présence paternelle. Vivre cette réalité dans l'existence quotidienne. Vivre cette réalité spécifiquement dans la liturgie, là où se déroule l'action de Dieu, de façon simple, immédiate, accessible, de façon prophétique. Voilà, je crois, une hymne qui résume bien le cheminement que nous avons fait. Merci à vous de l'avoir fait avec moi.